soir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant 7 heures au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et mardi oblige. Nanette, Quentin et Pierre-Antoine seront ce soir à bord. Au programme donc, billets d'humeur, géopolitique et politique. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ce soir dans le sous-marin, nous allons parler voyage en dehors des frontières et plus précisément d'Erasmus et du service volontaire européen. Pour en parler, nous recevons Virginie Brouhan, conseillère d'éducation populaire et de la jeunesse à la direction départementale de la cohésion sociale. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Adeline Amar du relais Europe Jeunesse 49. Bonsoir.
Bonsoir.
Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Nanette est de retour parmi nous pour son torpillage en règle. Voilà bien d'un mois qu'elle n'était pas avec nous. Bonsoir Nanette.
Bonsoir Tiffaine.
À toi le micro.
Je vous présente ce soir la croustillante petite liste des ennuis de l'Élysée et du gouvernement en général, solidarité oblige. Notre pauvre François Hollande a connu ces derniers temps beaucoup de moments difficiles. Prenez déjà une femme d'âge mûr, un peu tarée sur les bords, mettez-la assise sur un banc et peut-être qu'avec un peu de chance, vous réussirez à renverser le pouvoir. Eh bien, François a dû gérer ce type de phénomène, incarné par l'une de ses plus grandes admiratrices, Béatrice Bourges. Béatrice, tu es the femme de la semaine. Béatrice, elle a décidé de faire la grève de la faim pour, attention, accrochez-vous, la démission de Hollande. C'est la première psychopathe en liberté recensée en Europe depuis les années 30. Autant vous dire qu'elle a arrêté hier ce mouvement de rebelle adolescente. La semaine était plutôt monotone et silencieuse, pour ne pas dire ennuyée à mourir. Béatrice a eu de sympathiques petits temps de lecture avec Rivarol. Alors pour vous situer, Rivarol, c'est un journal de droite que le FN trouve extrême. Donc je vous laisse imaginer ce que Béatrice a dans la tête à la fin de la journée. Bref, notre courageuse gréviste avait installé son camping-car sur un parking. 8h30, elle se réveille et va s'asseoir sur un banc pour passer une journée de dingue. Entourée de barrières, dans un périmètre de 5 mètres carrés à tout casser, seule sur son banc, avec son espoir. Et pourtant, qu'est-ce qui est pire qu'une cloche sur un banc? Eh bien, je vous le donne en mille, deux cloches sur un banc. En effet, Josiane la rejoint bien vite. Heureusement qu'il y a Josiane. Josiane, c'est sa copine de grève, qui elle aussi ne doit plus trouver de raison de vivre. Elles sont quand même fortes, parce qu'elles espèrent toutes les deux faire tomber François du gouvernement. C'est Béatrice et Josiane contre la République française. Plus efficace qu'un coup d'État, à côté, le Napoléon, c'est du pipeau. Et voilà pour le coup de folie de cette semaine et j'enchaîne les bourdes les plus drôles au gouvernement avec en top 4 Jean-Marc. Jean-Marc, il perd complètement la boule, le Premier ministre en visite dans un centre d'apprentissage pour les jeunes. On lui présente une personne, il lui serre la main, lui dit bonjour et dans la pièce suivante, il croise le même type et lui relit bonjour et lui resserre la main. Top 3, c'est notre Jean-Luc Mélenchon dont on a découvert des tendances criminelles. Ça s'est passé en direct sur BFM. Apparemment, il n'avait pas capté que son micro était allumé et il a lâché bien fort juste avant l'émission « Il y aura des morts », exactement au moment où la musique de générique se tait et que doit commencer le journaliste. Dans un blanc, quoi. Top 2, Arnaud Montebourg nous a bien fait rire avec les mystères de l'anglicisme. Accrochez-vous, celle-là, elle vaut le coup. Arnaud nous a dit qu'il lisait la presse péople. Et oui, la presse péople, c'est un nouveau mot. Il voulait dire évidemment la presse people. C'est quand même énorme parce qu'il l'a sorti plusieurs fois. Et on a bien failli croire qu'il achetait Made in France. Et enfin, dans mon premier de la liste, Manuel Valls. Manuel Valls nous a avoué en direct, encore une fois sur BFM, qu'il a peut-être une fois fumé du cannabis. Ah bah si c'est une fois, ça va, on t'excuse. Mais enfin, quand on dit peut-être, c'est que déjà, il y a quelque chose qui est louche. Et oui, tout le monde a le droit de se sentir jeune, et nous d'abord.
Merci Nanette pour ce torpillage en règle et on te retrouvera mardi prochain. Tout de suite dans le sous-marin, on écoute Primal Scream, Goodbye Johnny.
It's the sound when the sun don't show. The lights up there like the great escape to push me down, how it suffocates. Goodbye Johnny, goodbye Johnny, goodbye Johnny. Johnny,
and turn them back every day. Johnny, I go across the world, but not away. There's nobody who looks like her. There is nobody who can be like her. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Can't see no color, no black, no red. Can't hear anything anybody says. Oh, how the passion gets crushed under the sky.
Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus et c'est un bordel innommable. Pour m'inscrire à un DEA en Espagne, ça m'a pris 3 mois.
Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus.
Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué. Ça, vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle a avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici. Il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas. Il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université. Votre carte de mutuelle étudiant. Faut que vous me la donniez. Vous êtes à la SMEAP ou à la MNEF?
MNEF.
Bon, bah alors dans ce cas-là, il faut aussi que vous alliez au bureau de la MNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée, pour obtenir le formulaire E111. Hein? Oui, bah faites pas. Si vous n'avez pas ce documentaire-là, vous ne pourrez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord? Donc vous me remplissez tous ces papiers-là. Et puis les autres choses, bah, comme tous les dossiers, hein, il faut un CV, une lettre de motivation, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là, et puis voilà.
Vous aurez reconnu Romain Duris dans l'auberge espagnole de Clapiche. Avec Virginie Brohan et Adeline Amar, ce soir, on va donc parler valises et passeports, puisque l'Union européenne a dépoussiéré ses programmes. L'actualité en termes de voyage à l'étranger, c'est un tout nouveau programme européen, tout chaud, sorti des cartons. C'est Erasmus+, un programme qui s'étend de 2014 à 2020 et qui devrait permettre à plus de 4 millions d'Européens de partir à l'étranger, dont la moitié d'étudiants. Parce qu'en fait, ces programmes concernent aussi les salariés de la vie active, les jeunes qui sont en dehors des études, c'est bien ça? Est-ce que vous voulez en dire un mot, Virginie Brohan?
Alors donc oui, la principale nouveauté avec ce nouveau programme que vous venez de citer, donc Erasmus+, voté pour 7 ans comme tous les programmes communautaires, donc sur 2014-2020. C'est vrai, quand on dit Erasmus, on pense à l'extrait dont vous avez parlé, les étudiants qui partent en Erasmus. Donc le nom de son nouveau programme, c'est aussi pour qu'il soit mieux identifié, mais il englobe énormément de possibilités. Et peut-être c'est l'occasion ce soir d'évoquer plus particulièrement des choses qui sont un peu moins connues. Donc le Erasmus+, il englobe maintenant tout ce qui relève de l'éducation formelle, donc J'entends par là tout ce qui est dans le champ universitaire, scolaire, l'apprentissage, la formation professionnelle, donc qui sont les anciens Erasmus, les Leonardo, les Grundig, puisque c'est vrai que l'Europe a beaucoup aussi de noms et de sigles. Et un autre volet qui concerne l'éducation non formelle. Donc l'éducation non formelle, ça va être tout ce qui concerne le champ hors justement scolaire, universitaire, formation professionnelle. Il concerne les jeunes de 13 à 30 ans, donc c'est vraiment extrêmement large. Donc nous, on va parler ce soir plus de ce volet-là, et notamment, plus particulièrement après, on va venir sur le service volontaire européen. Mais c'est vraiment à retenir cette idée de fusion de tout ce qui existait dans le champ de l'éducation, pour pas qu'il y ait des champs parallèles, et un montage aussi avec les trois entrées, les trois clés, qui concernent tous les programmes européens, que ce soit dans le champ universitaire, que ce soit dans le champ du volontariat, que ce soit dans le champ de la formation professionnelle, etc. etc. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, si, vous êtes claire. On va évoquer ces trois clés dans un instant. Mais avant, Erasmus+, donc ce nouveau programme, qu'est-ce qui n'allait pas dans le programme précédent? Qu'est-ce qui change? Pourquoi cette fusion?
Alors, qu'est-ce qui allait pas? Je pense que c'est dans un souci. Donc, comme vous le venez de le dire, c'est un programme communautaire. Donc, moi, au titre de la direction départementale, donc je suis fonctionnaire d'État. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi surprenant. Pourquoi nous, fonctionnaires d'État? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'agence française, donc dans chaque pays de l'UE, il y a des agences qui gèrent les programmes européens. Et jusqu'à présent, il y avait plusieurs agences. Donc, l'agence française du programme européen Jeunesse en Action, qui est très en lien avec notre ministère. Donc, le ministère, ça fait beaucoup de sigles, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et du sport. Et puis l'agence 2E2F, que les étudiants doivent plus connaître, qui traitait effectivement les Erasmus, les Leonardo dans l'éducation formelle. Donc là, avec ce nouveau programme, il y a aussi une fusion donc, de ces deux agences, et ça va être le cas dans tous les autres pays également, pour simplifier et rendre plus lisibles ces programmes à tous les potentiels bénéficiaires.
Alors Erasmus+, vous le disiez tout à l'heure, ça couvre trois points clés, trois clés d'entrée, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça le terme de communication.
Alors, il y a le faire en anglais.
La mobilité d'apprentissage, la coopération pour l'innovation et le soutien à la réforme des politiques publiques. Alors le premier, on le connaît un peu mieux, la mobilité, c'est donc le programme Erasmus, mais également les programmes en dehors de l'éducation formelle, comme vous le rappeliez tout de suite. Par contre, on peut peut-être dire un mot sur les deux autres axes, la coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques et le soutien à la réforme des politiques publiques. En clair, l'idée, c'est de faire avancer la coordination des États européens sur ces axes-là, les axes éducatifs, les axes de formation, les axes sur la jeunesse. Derrière la vitrine étudiante, est-ce que Erasmus+, c'est pas très politique finalement?
Alors après, c'est vraiment une vision aussi de l'Europe sur la question clé, c'est vraiment l'emploi des jeunes à court, moyen terme, et comment à travers des outils qui vont favoriser la mobilité des jeunes vont pouvoir permettre de développer des compétences, des connaissances, des savoirs qui vont favoriser l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est vrai que les États, enfin la plupart des États au sein de l'UE ont ce souci d'insertion des jeunes d'un point de vue économique. Et l'Europe souhaite développer des politiques européennes pour pouvoir favoriser et travailler sur ce champ-là.
Et est-ce qu'on a des retours en termes d'employabilité pour les jeunes, les étudiants ou pas, d'ailleurs, qui ont bénéficié de ces programmes?
Alors moi, je reste toujours dans le champ de l'éducation non formelle. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées justement sur la plus-value de la participation des jeunes au sein de ce programme. Et indéniablement, c'est vrai que c'est une plus-value en termes d'insertion professionnelle, puisque ça développe des compétences qui après sont transversales. C'est des choses que les jeunes peuvent également mettre sur leur CV qui sont extrêmement valorisées. C'est des certificats européens qui sont délivrés suite aux différentes expériences. Donc c'est vrai que c'est extrêmement, entre guillemets, monnayable sur le marché de l'emploi. Au-delà de l'ouverture aussi individuelle, culturelle que ça apporte, et les jeunes qui, dans un second temps, n'hésitent pas à aller travailler également à l'étranger, puisque c'est vrai qu'on le voit, hein, on en reparlera dans ceux qui partent. Une fois qu'ils partent, ils repartent souvent quasiment aussitôt après, pour développer deux types d'expériences, voire dans l'emploi, quoi.
Alors l'une des nouveautés de ce programme Erasmus+, c'est que ça ouvre vers d'autres pays que les pays du programme précédent.
Alors ça, c'est pas une nouveauté, puisque quand on parle de programme européen, l'ancien programme, c'était déjà le cas. Il y avait de nombreuses possibilités pour travailler avec les pays hors UE. Donc notamment tout ce qui concerne le bassin euro-méditerranéen, et il y a des pays partenaires, des pays voisins. Donc ça dépassait déjà très largement les frontières de l'UE. Et là, c'est quasiment la même chose, hein, par rapport à ça.
Tout de suite, je vous propose d'écouter un micro-trottoir qu'a réalisé Valentin cet après-midi concernant les difficultés qu'on peut rencontrer quand on va à l'étranger.
Alors, quelles sont les galères que vous avez rencontrées pour partir en Erasmus ?
Principalement, la paperasse administrative pour partir au niveau de la fac.
J'ai loupé mon TOEFL de 3 points au début, donc j'ai pas pu avoir ma destination au tout début.
Alors, en fait, je suis même pas parti en Erasmus, je suis parti aux États-Unis, donc c'est un autre programme. Il y a eu une grosse galère, ça a été avec le système de santé, où mon assurance française n'était pas valable là-bas. Sinon, tout s'est très bien passé. Bon, après, il y a la douane américaine, mais ça, c'est normal.
Principalement, au niveau du logement. Trouver un logement soi-même, c'est un peu plus difficile après. Enfin, notre établissement nous en proposait, mais c'était pas ce qui me convenait. Alors, j'ai dû en chercher, en fait, à distance, via Internet.
Alors, Virginie Brouin, Adeline Amar, est-ce que c'est toujours aussi compliqué de partir à l'étranger ? On parlait du logement, peut-être tout ce qui est administratif.
Alors, je commence peut-être,
ouais,
et puis après, Adeline, tu pourras compléter avec des exemples aussi vraiment concrets. Dans le cadre des formes de mobilité possibles dans le champ qui est le nôtre, et notamment sur la mobilité individuelle qui est le service volontaire européen, mais ça peut être de la mobilité collective, il y a toujours des organismes d'accueil et d'envoi. Donc de toute façon, c'est travailler, préparer avec les structures ressources qui envoient et qui accueillent les jeunes, donc c'est elles qui fournissent l'hébergement. Donc dans ce cadre-là, il n'y a pas ce souci-là. C'est plus pour les jeunes qui partent de façon soit complètement autonome, ou effectivement dans le cadre étudiant, c'est juste en lien avec les études. Mais ça ne va pas, ça va pas penser globalement les temps de vie du jeune. Alors que dans le cadre du SVE, l'hébergement, la nourriture, tout est pris en charge et c'est l'organisme d'accueil qui prend tout ça en charge. Donc les jeunes n'ont pas à chercher d'hébergement. Donc si tu veux compléter, Adeline.
Non, mais c'était exactement ça. Moi, je parlais du dispositif auquel je suis plus experte, donc le SVE. Il faut savoir que quand un jeune part en service volontaire européen, du coup, il est accueilli dans une structure d'accueil. Et tous les aspects logistiques, les aspects pratiques, type hébergement, type nourriture, sont pris en charge par la structure. Donc, il y a ce souci-là n'est pas transport. Les jeunes n'ont pas à se soucier de ces aspects-là. Donc, ce qui est intéressant pour eux, parce que du coup, ils partent dans un dispositif qui est bien accompagné, qui est bien cadré, contrairement à d'autres dispositifs tels que Erasmus.
Ex-Erasmus.
Mais ça reste quand même une ramification assez compliquée. Pierre-Antoine et moi, on est allés cet après-midi donc se renseigner sur ce nouveau programme Erasmus+. Et franchement, Pierre-Antoine, on s'est un peu paumé.
Ah oui, complètement.
Comment est-ce qu'on fait pour simplifier un peu ces démarches-là ? Même vous alors, utilisiez beaucoup de sigles en début d'interview pour expliquer. Comment est-ce qu'on fait pour clarifier ce programme ?
Alors, c'est vrai que ça fait partie également de notre travail que de tenter de démocratiser l'accès. Et en tout cas, nous, par exemple, au niveau de la DDCS, c'est bien pour ça qu'on travaille avec des partenaires associatifs et où on développe des projets pour favoriser l'accès à l'information et l'accès à l'accompagnement des jeunes. Et c'est notamment le propos même de l'existence du relais Europe Jeunesse où tous les jeunes, enfin, Adeline, tu en parleras aussi, sont les bienvenus pour venir s'informer sur ces différentes formes de mobilité, ce qu'il existe, etc. et qui propose aussi des accompagnements des jeunes qui veulent partir.
Alors justement, peut-être qu'on peut faire un point sur ces nouvelles formes de mobilité hors éducation formelle, donc hors ancien Erasmus, enfin Erasmus comme on le connaît dans l'auberge espagnole. Adeline Amar, est-ce que vous pourriez en dire un mot de ces nouvelles formes de mobilité dans le programme Erasmus+ ?
Alors peut-être juste avant, préciser et présenter en fait le relais Europe Jeunesse, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais bien préciser ce qu'est le relais. Donc c'est un lieu ressource en fait qui existe en Maine-et-Loire et qui permet d'informer et d'accompagner les jeunes et les professionnels de la jeunesse sur les dispositifs et projets de mobilité européenne. Donc pour ça, notamment sur le service volontaire européen et les échanges de jeunes. Voilà, donc on fait des...
Et quand on dit, juste pour te compléter, quand on dit jeunes, on est vraiment sur un public, globalement, on va dire 18-30 ans, quoi. Donc ouais. C'est très large, quoi.
Donc ces dispositifs plutôt informels, sur l'éducation non formelle, on est sur le service volontaire européen. Peut-être le présenter rapidement.
Alors le service volontaire européen, il s'adresse donc aux jeunes jusqu'à 30 ans, donc c'est assez large effectivement, pour des missions d'intérêt général allant, si je ne me trompe pas, de 2 à 12 mois. Voilà. Vous voulez rajouter sans doute quelque chose sur ce service volontaire européen pour le présenter.
Pour le présenter, alors voilà, c'est un dispositif qui maintenant concerne les 17-30 ans. On a ouvert à 17 ans. Pour des projets donc voilà, qui répondent à des missions d'intérêt général, ça, c'est des projets qui vont... avoir des thématiques très très diverses. On va aller de l'environnement à l'animation enfant-jeunesse, à l'art et culture. Voilà, c'est vraiment une diversité de thématiques. Le jeune va réaliser un projet donc de 2 à 12 mois. On est majoritairement sur plutôt du long terme, donc 9 à 12 mois. Et il va aussi du coup apporter ses compétences à la structure et puis en retour en recevoir également.
Peut-être pour compléter, ce qui est extrêmement intéressant et complémentaire par rapport à l'ancien Erasmus tel que connaissent plus les étudiants, c'est que dans le cadre du SVE, tout le monde peut partir sur des missions pas nécessairement en lien avec le niveau d'études ou son champ d'études. Par exemple, je ne sais pas, je dis ce qui me vient en tête, quelqu'un qui aurait fait un BP mécanique automobile mais qui est passionné du champ environnemental pourrait tout à fait aller faire un SVE dans le cadre d'une mission plus sur l'environnement. Donc les sélections ne portent pas du tout sur le niveau de savoir et de compétences et de diplôme. Donc c'est aussi l'occasion de développer d'autres champs, d'autres...
Et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ce dispositif, il est pour les jeunes de 17 à 30 ans, quelle que soit leur qualification et leur niveau de formation. Voilà, on n'est pas vraiment sur un profil type de jeunes.
Alors l'idée justement du SVE, à la base, c'était d'offrir aux jeunes, quel que soit leur niveau de formation, un accès démocratique à la mobilité. Est-ce que dans les faits, c'est le cas ?
On essaye. Après, moi, je prends l'exemple du relais Europe Jeunesse. Donc, on est aussi, du coup, la structure d'envoi du Maine-et-Loire. On accompagne les jeunes à partir en service volontaire européen. Parce que pour faire un service volontaire européen, il faut 3 acteurs principaux. Donc, le jeune qui est au cœur du projet. Et puis, après, une structure d'envoi dans son département aux alentours de son lieu d'habitation. Et puis, une structure qui l'accueille à l'étranger, en Europe. Donc, nous, au niveau du Maine-et-Loire, on est la structure qui est agréée envoi. Depuis 2008, on a envoyé 35 jeunes en service volontaire européen. Et il faut savoir qu'en termes d'information, parce qu'on fait des réunions d'information mensuelles, donc tous les mois, depuis 2008, on est rendu à 500 jeunes qui sont venus en réunion, plus nos informations un peu plus délocalisées dans les lycées, dans les structures jeunesse, les maisons de quartier, les centres d'information jeunesse, etc. On est rendu maintenant à 1500 jeunes informés sur ce dispositif.
Mais quels sont les profils de ces 35 jeunes que vous avez envoyés en SVE ?
Alors, le profil de ces jeunes, c'est souvent des jeunes qui sont ont moyenne d'âge 22 ans, plutôt des filles que des garçons. On est à 65% je crois de filles et du coup 35% de garçons.
Ça, ça a changé, puisqu'il y a quelques années, c'était plutôt les jeunes hommes qui partaient, et là c'est vrai que c'est massivement des jeunes femmes.
On est à un envoi à peu près de 10 jeunes par an. Et puis ce sont des jeunes qui ont un profil un peu plus étudiant, enfin la majorité ont un niveau licence. Voilà. Dans les jeunes qu'on a envoyés, on a un jeune qui avait un niveau BEP, un autre qui avait un niveau bac, mais c'est vrai qu'après on est plutôt sur des niveaux bac plus 3.
Ce qui ne veut pas dire que ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est plutôt, et c'est pour ça qu'on est ravis que vous nous accueilliez aussi ce soir, même si votre public est principalement étudiant, mais je pense que vous êtes écouté largement, c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde, et le souci c'est d'avoir l'information, que ça existe, que c'est pour tout le monde, etc. Et il se trouve que si c'est plutôt des jeunes mieux outillés sur l'accès à l'information, c'est parce que il se débrouille plus facilement pour avoir accès à l'info et donc savoir que ça existe et ensuite de faire la démarche. Et c'est pas tant la démarche en elle-même qui va être un frein à partir, puisqu'une fois qu'on est lancé avec les organismes d'envoi et d'accueil, c'est vraiment pour tout le monde. Et les jeunes n'ont pas à accomplir toutes les tâches administratives et logistiques, puisque c'est la structure d'envoi qui le fait. Donc il n'y a pas de dépôt de dossier. Simplement, son boulot, j'ai envie de dire, c'est de réfléchir à son projet. Pourquoi je veux partir? Pourquoi y faire? Où je veux aller? Parce que donc les missions, les organismes d'envoi, d'accueil, excusez-moi, reçoivent sur des missions un peu précises, mais c'est vraiment liberté à chacun de trouver la mission qui lui corresponde le mieux en fonction de ses appétences, ou alors s'il y en a, s'ils vont sélectionner plus en lien avec un pays en particulier, etc., etc.
Est-ce que le risque de ce service civique, ce service volontaire européen, c'est pas aussi que ce soit une année après la sortie d'études, quand on ne trouve pas d'emploi, de se dire, voilà, on va prendre une année de service volontaire? Est-ce qu'il n'y a pas une... risque de précarisation aussi des jeunes qui partent? Est-ce que vous voyez vous constatez pas ça au...
À risque, moi je le verrais plutôt comme une chance et une opportunité, puisque ceux qui partent reviennent grandis, nourris de rencontres, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, d'un nouveau réseau,
ce qui est
quand même énorme, parce qu'en termes de réseau, notamment pour trouver de l'emploi derrière, c'est quand même assez colossal. Et ceux qui reviennent, beaucoup, ils repartent après en général
sur d'autres
aventures, ça arrive aussi régulièrement, ils se font embaucher dans la structure sur laquelle ils étaient en SVE, mais dans une cadre d'une activité salariée, etc. Donc c'est plutôt une opportunité, puisqu'il faut savoir que c'est quand même complètement gratuit pour les jeunes, puisqu'ils sont, tout est pris en charge, donc transport, hébergement, nourriture. Et ils perçoivent en plus une indemnité mensuelle. Donc tout ça pris en charge par l'Europe, quoi.
Avec des cours de langue obligatoires du pays dans lequel ils sont accueillis, avec un tuteur aussi qui leur sera désigné. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant pour les jeunes.
Tout de suite, on va marquer une seconde pause musicale dans Sous-marin avec Gaspard Royan, All the Cold in You is Me. Le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et le mardi dans le sous-marin, c'est Géopolitique avec Quentin. Salut Quentin.
Bonjour.
Avec toi, c'est l'occasion de sortir la tête du sous-marin et de regarder un peu en dehors des frontières. Nous nous dirigeons donc vers l'Europe de l'Est. La situation en Ukraine est peut-être sur le point d'évoluer.
Cela fait désormais 2 mois que la population ukrainienne proteste contre le gouvernement dans les rues de Kiev. Il est temps de trouver une solution. Pour rappel, en novembre, le président ukrainien Viktor Yanukovych avait soudainement fait volte-face et avait renoncé à la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Les menaces et diverses offres économiques de Vladimir Poutine s'étaient montrées décisives. Nombre de militants pro-européens étaient descendus dans la rue. Leur mouvement fut violemment réprimé par les forces de l'ordre, ce qui eut comme seul effet d'encourager une contestation beaucoup plus large. Des bâtiments publics sont occupés dans tout le pays, et la vindicte populaire ne faiblit pas. Deux nouveaux éléments rentrent en jeu aujourd'hui. Le premier est l'évocation par des membres du gouvernement de la tenue d'élections anticipées. C'est la première fois qu'ils ouvrent cette porte. La seconde est la visite à Kiev de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton. Elle vient proposer des accords économiques dans le but affiché de concurrencer ceux offerts par la Russie.
L'Union européenne se décide enfin à faire elle aussi son numéro de séduction.
En quelque sorte, oui. Elle va essayer de faire repencher la balance Union européenne-Russie en faveur de l'Europe. Ne croyez pas pour autant que l'Ukraine puisse apporter quoi que ce soit à l'UE. Elle n'a rien apporté sur le plan idéal ou économique. La démarche de Catherine Ashton n'est que l'expression d'un jeu géopolitique addictif pour tous les joueurs. Lâcher prise créerait un malaise dans les deux camps. Mais c'est pourtant ce qu'il faut faire. L'Union européenne doit cesser de s'aveugler. La neutralité de l'Ukraine est indispensable. S'il est impensable que le pays retourne dans le giron d'un empire russe renaissant, une Ukraine trop proche de l'Ouest provoquerait inévitablement des tensions diplomatiques inutiles avec la Russie et l'ego de son président. Or, une coopération entre la Russie et l'Occident s'avère plus que nécessaire sur d'autres dossiers, ceux de l'Iran et de la Syrie. De plus, l'Union européenne s'est construite par la volonté de quelques hommes, une volonté de rapprochement politique, sous des aspects économiques, une vive volonté d'en finir avec les conflits continentaux d'ampleur mondiale, une volonté de guider des peuples. Ici, c'est le peuple ukrainien qui guide son pays. L'UE apparaît certes comme garante de démocratie et de transparence. Est-ce son rôle principal? Non. L'Ukraine doit se trouver elle-même. Dans son histoire, l'Ukraine a été le berceau du monde slave, puis s'est partagée selon les époques entre divers pays, du royaume de Galicie-Voltigny à l'Empire russe en passant par le royaume de Pologne et jusqu'à l'URSS. Elle fut laissée indépendante en 1991. Par les événements qu'elle vit actuellement, comme par la révolution orange de 2004, on observe que l'Ukraine traverse une crise d'indépendance et de démocratie, une crise qu'elle se doit de résoudre elle-même et non sous la tutelle illusoire d'un ou plusieurs autres États voisins. L'Ukraine est en plein numéro d'équilibrisme, tel un funambule sur un fil tendu entre la Russie et l'Occident. Il est temps de jeter le balancier et de poser les deux pieds à terre.
Si je comprends bien, l'Ukraine n'aurait donc pas besoin de l'Union européenne.
Tout à fait, pas plus que l'UE n'a besoin de l'Ukraine. Un pays ne se construit pas en étant soumis à des exigences imposées par d'autres. En cela, Sotchi pourrait aider les Ukrainiens. Le grand rendez-vous des sports d'hiver s'ouvre ce vendredi. Les médias occidentaux, ainsi que dans une moindre mesure, les diplomaties occidentales, vont utiliser les Jeux Olympiques pour se concentrer plutôt sur les problèmes propres à la politique intérieure russe. On pourrait s'inquiéter de voir une Ukraine délaissée et livrée à elle-même. Non. Le pays tient là l'occasion, pendant 17 jours, de trouver sa sortie de crise. Et par ailleurs, un regain de démocratie. L'opposition a eu raison la semaine dernière de rejeter le poste fantoche de Premier ministre proposé par Yanukovych. Cette fois, la considération d'élections anticipées n'est pas qu'un os à ronger. Dans un scénario idéal, mais non follement utopique, se succéderait l'organisation cordiale de nouvelles élections libres, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le retour à la constitution de 2004. Tout cela dans une indépendance nationale salutaire.
L'échéance est proche et nous saurons bientôt ce qu'il adviendra. Merci Quentin, on te retrouvera mardi prochain pour une nouvelle chronique géopolitique. Suite du scaphandrier dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, nous sommes en compagnie de Virginie Brohan de la DDCS et d'Adeline Amar du relais Europe Jeunesse pour parler mobilité et du nouveau programme de l'Union Européenne Erasmus+. Virginie Brohan, vous vouliez évoquer la question du fait que les associations peuvent recevoir aussi des étudiants ou des jeunes en service volontaire européen.
Oui, tout à fait. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a trois acteurs, un organisme d'envoi, un organisme d'accueil et bien sûr au centre une jeune personne qui souhaite partir. Donc ce qui veut dire que nous en France on accueille aussi énormément de jeunes qui sont en SVE dans notre pays. Et à ce titre-là, puisque c'est vrai que de nombreux étudiants participent à la vie associative, que ce soit des associations étudiantes, des associations sportives ou autres, et il faut savoir qu'il est tout à fait possible d'accueillir dans sa structure un jeune qui vient faire un volontariat d'un autre pays. Donc c'est extrêmement intéressant puisque ça permet de donner un peu une ouverture, une dimension internationale, européenne à un projet associatif. Et la démarche est assez simple. Et donc là, une fois de plus, le programme prend en charge tous les frais liés à l'accueil du jeune. Alors, je dis tout en fonction de là où on l'héberge, hein, si c'est un hôtel 4 étoiles ou en fonction. Donc, ça couvre normalement tous les frais liés à l'accueil. Donc, il faut savoir que c'est des possibilités qui sont, tout comme également, tout à l'heure, vous avez fait le lapsus sur service civique. Le service volontaire européen n'est ni plus ni moins que, ou plutôt le service civique est le volet français du volontariat européen. C'est-à-dire que le service civique, on est dans le cadre d'un volontariat, donc avec une prise en charge de l'État français. Dans le cadre du SVE, c'est la même chose, avec le même principe, la même philosophie sur l'engagement de façon volontaire au sein d'une structure à but non lucratif, sur là le volet européen.
Tout de suite, je vous propose d'écouter un deuxième micro-trottoir réalisé par Valentin sur les retombées positives d'un voyage comme ça à l'étranger.
Alors, quels sont les points positifs de votre voyage en Erasmus ?
Les points positifs, on peut améliorer la langue. On connaît beaucoup de gens, surtout des gens d'autres pays. Les Erasmus, tu apprends à te débrouiller toute seule.
Déjà, c'est quand même parler la langue. Pour devenir bilingue, vraiment, c'est vraiment un gros, gros plus.
On apprend aussi à se connaître soi-même. Enfin, c'est assez intéressant parce qu'on ne s'attend pas tellement à ça. Et finalement, on découvre qu'on connaît énormément de choses sur soi-même.
Les cours aussi sont différents des nôtres. Du coup, ça nous donne une autre vision du monde universitaire, une autre façon d'aborder le travail personnel. Et puis, forcément, les soirées, les sorties et toute la vie étudiante.
C'était le fait d'avoir pu découvrir plein d'autres cultures, de pouvoir vivre en communauté avec des Allemands, des Anglais, des Écossais, des Coréens. Et du coup, de pouvoir partager au quotidien une autre culture, quoi. Oui, c'était vraiment chouette.
Adeline Amar, Virginie Brouin, est-ce que vous avez les mêmes retours des jeunes que vous avez envoyés à l'étranger et qui reviennent en France ?
Alors là, je vais peut-être évoquer le fait des jeunes qu'on a accompagnés aussi au retour. Généralement, quand ils reviennent, les premières sensations qu'ils nous disent, c'est beaucoup de confiance en soi. Voilà, je suis partie sur un projet de plusieurs mois. Aujourd'hui, j'en reviens avec une certaine confiance en soi. Et puis, il y a aussi le terme d'autonomie aussi. Même si on parlait que les jeunes qu'on a accompagnés sont déjà des jeunes avec un certain bagage scolaire et sont déjà des jeunes informés, ils reviennent avec beaucoup plus d'autonomie. L'apprentissage linguistique, je pense que c'est inévitable. Alors, même si on part en Roumanie, en Hongrie, au Portugal, les jeunes vont tous revenir en parlant en bilingue français-anglais, parce que l'anglais, c'est quand même la langue avec laquelle on va plus facilement communiquer avec la structure d'accueil et puis les autres jeunes volontaires qui sont aussi accueillis dans la structure.
Beaucoup disent aussi qu'ils partent souvent pour apprendre l'anglais. Mmh. Ça peut être une des motivations au départ, c'est pas toujours le cas, loin de là. Mais ils cherchent des pays type Angleterre ou des pays anglophones. Et ceux qui reviennent disent, mais finalement, c'est plus facile d'apprendre l'anglais type dans un des pays plutôt Europe de l'Est, Europe centrale, que dans un pays qui est plus anglophone, quoi.
Effectivement, quand les premières réunions d'information, quand on fait un tour de table pour savoir un peu leur motivation à partir, c'est « moi, je vais partir en Angleterre ou en Irlande pour apprendre l'anglais ». Et en fait, on se rend compte que dans les jeunes envoyés, il n'y a que juste une personne qui est partie en Angleterre. Voilà. La plupart sont partis sur des projets en Hongrie, en Roumanie, et qui sont venus en parlant parfaitement anglais, même avec des bases de roumain ou de hongrois, donc c'est encore un
plus.
Voilà.
Et sinon, c'est vrai que par rapport à votre micro-trottoir, c'est très juste ce côté, effectivement, ouais. Valorisation de soi, l'idée de mieux se connaître soi-même et puis s'ouvrir sur les autres. Ça, c'est vraiment deux axes très forts. Ouais.
Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne veulent pas se perdre sur le site du programme Erasmus+, quelles sont les démarches à entreprendre ? Est-ce qu'il faut aller au Relais Europe Jeunesse, par exemple ?
Alors, s'ils veulent partir en service volontaire européen ou effectuer d'autres projets plutôt de mobilité européenne, alors effectivement, il y a des premières démarches à faire auprès du Relais Europe. Donc, le Relais Europe, en fait, il est animé, je ne l'ai pas cité, par la Fédération Régionale Famille Rurale, donc voilà, qui est basée à Angers, donc en partenariat, du coup, avec le soutien de la DDCS 49. Donc, il faut qu'ils nous contactent donc à la Fédération Régionale Famille Rurale, par téléphone ou par mail. Donc, il y a un site internet qui existe. Et puis, un premier temps, peut-être participer à une réunion d'information sur le service volontaire européen. Et par la suite, du coup, on pourra accompagner la personne via des entretiens téléphoniques ou via des entretiens physiques, etc. Voilà.
Alors, juste pour compléter également, puisque donc le Relais Europe est sur le Maine-et-Loire depuis déjà quelques années, et on accueille depuis
septembre dernier
aussi une autre association qui s'appelle Itinéraire International, qui vient de s'implanter dans le 49. et qui sont situés au niveau du collectif Atome rue de la Roe, qui tiennent également des permanences et qui organisent des temps d'info collectives et qui font partir également les jeunes dans le cadre de leur mobilité, donc plutôt sur de la mobilité courte dans le cadre du SVE, mais qui maîtrisent l'ensemble des programmes européens et qui partent du projet du jeune pour pouvoir lever le bon levier, le bon outil pour aider les jeunes à partir. Donc ça, c'est un autre contact aussi vraiment à retenir.
Merci beaucoup Virginie Brouin, Adeline Amar d'avoir été dans le sous-marin avec nous ce soir.
Merci à vous.
Tout de suite,
un plaisir.
C'était un plaisir pour nous également. Tout de suite, on va écouter 12 mai, mise à jour.
Rien n'a vraiment changé depuis headphone, j'tape mes rimes, scred, l'appétit se traîne. Les heures de sommeil au fond, je crois que j'en suis pas à 10 près. Je dissèque le beat, ma vie est celle d'un émissaire. L'envie de réussir est incrustée dans mes viscères. En perte de repères, j'ai resserré les rangs. Hors de question de me faire plier ma motive ou danser des lérantes. Toujours fixé sur mon radeau, je suis censé être construit un minimum, mais je me cherche comme un ado. Au fond, je sais plus trop qui je suis. Je sais plus si c'est moi qui m'écarte ou bien les autres qui me fuient. Ici rien n'est sain, tout est indécent. Flamme incandescente, au fond des yeux, je reste bien conscient que la vie n'est qu'un aller simple. On s'efforce d'échafauder des plans, d'essayer de combler les blancs, de s'inventer des idées pour les défendre. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape au fond? Nos ambitions inassouvies deviennent des tares profondes. Combien j'ai vu d'anciens se vanter de leurs faits d'armes. J'ai fait ci, j'ai fait ça, confronte-les au réel et c'est le fade out. Tout ça étalé leurs fausses prises de risque et leur facétie confère à leur discours un côté tellement pathétique. Je couche sur un tas de récits, bouge, n'attends pas le messie, épingle ma société en restant imprécis. J'ai dû revoir à la baisse mes prétentions et ça me désole, fais porter ma voix pour qu'elle résonne. Moi, je suis pas un type trop lent. Au fond de mon cœur, y'a tant de violence, de trahison sale, de bassesse, d'insolence. J'essaye de ne pas me laisser abattre. La pire des faiblesses reste la résignation. Je pèse sur cet effet de masse. Laisse-moi faire parler le doute, l'atmosphère si prête. Car à 30 balais, j'ai jamais vu le gouffre de si près. Ma sœur, dois-je trouver une autre directive? Aide-moi à passer ce cap, comme disait G.
Ça finit mal pour chacun d'entre nous. On se donne la main, tout sera pour ça, tiré dans le trou noir. Ça finit mal pour chacun d'entre nous. On se donne la main, ce sera pour ça, tirer dans le trou noir.
Si je suis encore vivant dans 5 ans, je fais un gosse, mais maintenant je brigue un poste à plein temps. Dans le hip-hop, le bain de sang est annoncé, plein de sens à balancer. Assez de volonté pour changer ce putain de monde en 15-30. Perdre sa rage, la reconquérir à sec, les intempéries m'assènent des coups. J'égrène les courtes secondes qui me séparent de la ligne de fin. J'ai compris qu'ici-bas, seule la légende fabrique le sein. Donc je mesure mes actes, défigure tes baffes, la coup de pensée immédiate, de prédiction inexacte. Dans le ciel, on cherche tous un quelconque message subliminal, afin de savoir ce qu'on risque de faire de nos petites vies minables. On se bouffe tous entre nous, on se fout de tout, de début en bout de course. On voit le gouffre que le flou se creuse entre nous. Les plus gâtés s'écartent et matent les pauvres et les chelous. Les plus rageux s'emballent et font que les faibles bouffent la pelouse. Mec, je respire plus. Vois ma pensée dans un vestibule, vestige d'une adolescence coincée entre l'art de la guerre, sa maîtrise pure et la philosophie d'Épicure. Il n'y a pas assez de place pour de grandes ambitions dans une si petite ville. On vit sans cesse en proie à des critiques viles et qu'ils aillent se faire naître. Est-ce qu'ils ont la moindre idée de ce que j'essaye de faire naître? C'est con, dès ma venue au monde, j'ai fait face à ses conséquences. Stress, traumatisme et spasme. Est-ce qu'on passe nos vies à ce qui les bassesse? Oui, connivence rompue une fois qu'on se vexe. Apprendre la mort d'un de mes amis par voie de presse m'angoisse. Ma plume reste en bas, mais mes écrits s'élèvent. Pas encore assez haut pour rendre mes vies célèbres. Tous prêts à s'affronter, faire pitance, à prier pour ne pas foirer nos pitoyables existences et prier.
Besoin d'air, d'air. Besoin d'aide, besoin d'aide, c'est qu'ici notre avenir est en péril. Besoin d'aide, besoin d'aide, c'est qu'ici notre avenir est en péril.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers et mardi soir oblige, on retrouve Pierre-Antoine et sa chronique politique. Dimanche dernier, le 2 février, une nouvelle manifestation anti-mariage pour tous a réuni des milliers de personnes, entre 80 et 500 000 selon les sources. Hier, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a annoncé que l'examen de la loi sur la famille serait reporté à 2015, de quoi faire grincer des dents à certains.
Et si le PS avait eu peur, c'est du moins ce que laisse paraître la dernière décision de Matignon, reporter l'examen de la loi sur la famille. Pourtant, comme le rappelle Le Parisien, peu de points pouvaient faire peur aux Français dans ce projet de loi. Le gouvernement socialiste prévoyait la création d'une pré-majorité à 16 ans, avec le droit de vote aux élections locales, un statut juridique pour les beaux-parents, un système d'adoption facilité pour les enfants placés en famille d'accueil et l'accès à certaines informations sur les parents des enfants accouchés sous X. Rien de bien dangereux en somme, voire même des propositions plutôt intéressantes, pas de procréation médicalement assistée, pas de gestation pour autrui, ni de théorie du genre, foulard rouge agité par les organisateurs de la manif pour tous. Ce qui est choquant, ce n'est pas tellement l'opposition de certains aux réformes sociétales, mais bien la décision du gouvernement, c'est du moins l'avis de nombre de politiques de gauche comme Emmanuel Causse, président de Europe Écologie Les Verts, parti pourtant présent au gouvernement. Au lendemain de la mobilisation du camp réactionnaire, ce renoncement est consternant, dit-elle. Nous espérons que le gouvernement reviendra sur cette décision, a-t-elle déclaré. Mais ce n'est pas la seule, hein. À la gauche du PS, ça grogne aussi. Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche, attaque avec virulence la droite, le MEDEF et l'Église, qu'il estime choyés par le gouvernement. Une position extrême qui oublie peut-être un peu vite que tous les catholiques ne sont pas descendus dans la rue dimanche. Il appelle également à des élections qui infligent aux listes gouvernementales une sévère punition. Et même au PS, l'affaire a fait des vagues lundi après-midi. Thomas Thévenoud, député PS de Saône-et-Loire, qui souhaitait déposer un amendement ouvrant la PMA aux couples de femmes, s'est exprimé hier sur France Inter.
Oui, parce que je pense qu'il faudra de toute façon adapter le droit de la famille en France aux évolutions de la société. Donc il faut moderniser notre droit et faire avancer un certain nombre de droits nouveaux. La gauche, c'est ça, c'est la conquête de droits nouveaux, l'égalité des droits.
Même son de cloche pour Bruno Le Roux, chef de file des socialistes à l'Assemblée nationale, qui a demandé à Manuel Valls, qui était chargé d'annoncer la décision à la presse, d'attendre les conclusions du Comité national consultatif d'éthique, le CNCE. Cette annonce sur ce qui sera l'attitude du gouvernement me semble prématurée, ajoute-t-il.
Autre grand mécontent, les associations LGBT.
Ah oui, hein, des associations qui attendaient beaucoup de ce texte et des amendements qui auraient pu en découler. Direct Matin a décidé d'interviewer la porte-parole de l'inter-LGBT Marjorie Mauny, pour qui cette décision est une très très mauvaise nouvelle pour Stéphane Corbin, président du centre LGBT Angevin Quoi. Hasard, le gouvernement a cédé, il s'exprimait sur France Info.
Ils ont raison de crier victoire, puisqu'on voit bien que la grande lâcheté du gouvernement est non seulement de créer la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire depuis des semaines et des mois nous dire que la PMA ne serait pas dans ce projet de loi famille, et puis aujourd'hui, cédant devant la manifestation d'hier, ce gouvernement et aussi le président de la République qui renie ses engagements de campagne, qui décide que la loi famille est renvoyée au calende grec.
Cette décision en a pourtant réjoui plus d'un, en commençant par la Manif pour tous. Le mouvement se félicite par la voix de Ludivine de la Rochère, sa présidente. C'est une victoire, car ce qui se dessinait dans ce projet de loi n'était pas favorable à l'intérêt supérieur de l'enfant et de la famille, dit-elle. L'UMP, gênée sans doute d'avoir finalement que peu joué dans le bras de fer avec le gouvernement, demande à Matignon une clarification de sa position quant à l'ouverture à de nouveaux droits aux couples homosexuels et ainsi mettre fin à une perpétuelle ambiguïté, selon les mots mêmes de Sébastien Huyghe, député UMP. Du Nord. À Solferino, la direction du PS minimise les désaccords entre les élus et le gouvernement. Un tel ou un tel peut avoir telle position. Chaque parlementaire, indépendamment des groupes, a ses capacités à mettre dans le débat ce qu'il souhaite, a déclaré David Assouline. Pour Yann Gallu, député du Cher, qui était invité de France Inter hier, le gouvernement a fait le bon choix.
Il y avait une vraie interrogation qui traversait non seulement le groupe socialiste, mais aussi le gouvernement et je dirais au-delà de tout ça, la gauche actuellement. Il faut le reconnaître, dans nos circonscriptions, les gens ne nous parlent absolument pas de ça, ils nous parlent tout simplement du chômage, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Donc là, le gouvernement fait cette annonce. Personnellement, j'y souscris dans la mesure où, moi, ma priorité en tant que parlementaire, mobilisons-nous sur cette question-là.
Un recadrage de la position du PS qui a été le bienvenu, même même si un peu tard pour camoufler un énième couac gouvernemental, il ne reste finalement plus qu'à recadrer la politique du gouvernement.
Merci Pierre-Antoine, je te dis pas à mardi, je te dis à jeudi dans le sous-marin puisque tu es avec nous pendant tout le mois. On termine avec les plans sortis pour ce soir et demain. Ce soir donc au Welsh à 20h30, session irlandaise, et à 21h au T-Rock, un bœuf blues comme on les fait les mardis soirs au T-Rock. Demain soir au château, vous retrouvez H6M2 Henri VI en 45 minutes et sur 6 mètres carrés à 19h30 et à 21h. Il y aura une soirée ciné-rencontre à 20h30 à l'espace culturel de l'université, organisée par Cinéma d'Afrique autour du film Lumumba. Demain à 19h, After Work au Jacaré, concert de jazz manouche au Challenge à 20h30, Blind Test musical au West Indies Café à 20h30 et scène ouverte acoustique au T-Rock à 21h45. Et puis, événement angevin, s'il en est, le nouveau café concert, le Joker's Pub, ouvre en grande pompe demain soir à 19h avec un concert gratuit des Coco Girls. Voilà. Il est l'heure de ranger les scaphandriers au placard. Antoine maniait le sous-marin ce soir. Quentin, Pierre-Antoine et Nanette m'ont accompagné en ce mardi. Vous pouvez nous réécouter bien sûr sur notre site internet ou demain en rediff à 13h. À 21h, vous retrouvez The Johnny Clash Show spécial Adam Green. Antoine vous fera gagner des places pour le Shabada. On vous laisse avec l'incontournable bulle sonore. L'équipe de Cinequanon parle du dernier Miyazaki qui fait apparemment l'unanimité. Merci à vous d'avoir embarqué avec nous dans le sous-marin. On se retrouve jeudi à 19h. Bonne soirée sur campus et joyeux mercredi. Allez, bisous.
Le vent se lève, si vous ne le saviez pas, ça retrace la biographie du concepteur des chasseurs bombardiers Zéro. Et par la même occasion, ça retrace un peu toute l'histoire du Japon au XXe siècle. Donc on démarre avec l'enfance d'Hiro, donc, qui présente un peu la vie à la campagne à l'époque. Il fait ensuite ses études, ce qui est l'occasion de voir Tokyo, qui va être ravagé par un grand séisme et incendie. Et au-delà de ça, donc, on a ensuite les prémices de la guerre qui arrive, Hiro part voyager en Allemagne, plein de péripéties, rencontre l'amour, on a aussi du coup un arc parallèle sur la tuberculose qui sévit à l'époque. Donc moi j'ai beaucoup aimé, de toute façon avec Miyazaki on n'est jamais vraiment déçu, hein, que ça soit sur les grands classiques... Prince Mononoké, Voyage de Chihiro,
Château dans le ciel,
Le château ambulant, des choses plus mineures comme Le Royaume des Chats, qui est peut-être un de ses films les moins connus, qui était tout mignon mais qui était quand même réussi.
Il était bien, ouais.
Oui. Et du coup, bah voilà, enfin pour moi la transposition, ce que je trouve amusant, c'est que ça démarre avec un aspect fantastique vu qu'on a la scène du rêve,
oui.
l'avion du rêve qui rappelle un peu ces, bah voilà, enfin ces anciens films. Ensuite l'énorme avion avec les bombes, avec les ombres et tout, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il repart en fait sur un truc complètement surréaliste. Et en fait, bah la transposition à la réalité. Il faut, oui, ça demande peut-être un petit temps d'adaptation, mais rien.
La transition, tu veux dire? Excuse-moi, c'est je te coupe dans ton élan lyrique envers Miyazaki.
Du coup, voilà, mais le, en final, ça change rien. Enfin, on a quand même un univers très poétique, même transpose au monde réel. Des scènes fortes, la scène du séisme avec des scènes de foule un peu. Ça m'a fait penser justement aux scènes de guerre dans le château ambulant.
Les scènes de destruction dans Princesse Mononoké aussi.
Oui, aussi.
La destruction finale.
Enfin, du coup, ça renvoie à tous ces films, mais juste en y pensant, pas par des gros trucs un peu lourds de regarder. Ouais. Je fais des clins d'œil parce que
c'est
ce que j'ai trouvé très honorable. Et et voilà, au final, il signe un film très différent de ce qu'il a pu faire. En même temps, pas tant que ça. Et c'est un choix sur. Pour un dernier film, s'il se retire au moins en tant que réalisateur principal, c'est un choix assez intéressant. Et non, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a plein d'émotions, il y a plein de belles choses.
Ouais. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Thank you.